des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Saye au micro de Canal M pour vous présenter des livres plein les oreilles. Et Dieu sait si on va s'en mettre plein les oreilles parce qu'aujourd'hui c'est un spécial. C'est un spécial Le Fil, c'est un spécial le Festival international de la littérature. J'ai toujours dit que ce festival était fait pour Vues et Voix, pour les lecteurs, pour les auditeurs de Vues et Voix et de la radio Canal M. Un festival qui fait la part belle aux lectures de livres, à des extraits qui sont lus par des voix, par des gens absolument merveilleux pendant une dizaine de jours. Alors, Festival international de la littérature et également un événement que nous allons souligner aujourd'hui. Pour la première fois, une collaboration étroite entre Vues et Voix et le festival. On va en parler dans quelques secondes. Et si vous pensez que je suis toute seule en studio aujourd'hui, oh que nenni, mes amis, que nenni, je suis en compagnie de Michel Corbeil, la présidente du festival. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Je vais aussi avoir, mais un petit peu plus tard, Benoît Drouin-Germain, comédien, Sylvie Drapeau, comédienne, Claudia La Rochelle qui est ici. Bonjour, ben Claudia.
Bonjour à tous.
Il y a Jacques Tremblay, il y a aussi des lecteurs de cette soirée littéraire au noir dont nous allons parler, organisée conjointement par Vues et Voix et Le Fil. Donc on va entendre ces belles grosses voix Radio-Canada qui nous manque tant depuis qu'elles sont à la retraite. Je pense à Gilles Dupuis et Michel Keble. On va voir aussi une petite jeune qui débute en la personne de Béatrice Picard. Et puis tout ce bon monde-là. Donc on est ensemble pendant une heure pour parler bouquins, pour parler livres qui s'écoutent. Alors on commence dans quelques secondes avec mes premiers invités. Jacques Tremblay, initiateur. Oui, émérite, je dois le dire, Jacques.
C'est exagéré, mais ce qui est important.
Quand même, initiateur émérite de ce souper dégustation littéraire au restaurant Au Noir qui aura lieu le 25 septembre prochain. On commence aussi avec Michel Corbeil et avec Claudia La Rochelle. Claudia La Rochelle, je vais commencer par vous. D'abord, rappeler que vous êtes la porte-parole de l'organisme Vues et Voix. Ça fait quelques années maintenant.
Oui, ça, je pense que ça fait trois ans, quelque chose comme ça. Ouais, oui, et c'est une collaboration que j'aime, une collaboration à laquelle je tiens énormément depuis toutes ces années, oui.
Alors, il était normal, évidemment, qu'on vous demande de venir marrainer cet événement qui aura lieu le 25 septembre, ce souper dégustation, à la fois au niveau du repas, donc au niveau tout ce qui est gustatif sera mis à l'honneur, mais aussi en même temps, les gens pourront se régaler en même temps de ce repas à l'aveugle et pourront vivre une lecture telle que les aveugles peuvent la lire, c'est-à-dire des textes qui leur seront lus. Pour vous, c'est essentiel dans votre vie. La lecture, on le sait, les livres, on le sait. Merci pour tout ce que vous faites. On vous souhaite le meilleur et notamment un Gémeaux dans votre très belle robe que vous venez d'acheter. Et puis, la lecture à haute voix aussi, c'est important dans votre vie.
Oh oui, c'est significatif parce que la lecture à haute voix, je la pratique d'abord à la maison avec mes enfants. C'est là que tout commence, hein, au berceau, quand on prend la lecture, on l'enseigne aux enfants, donc dès la naissance. Ensuite, parce que quand j'écris, je me relis aussi à haute voix.
Oui.
Et ensuite, ici, chez Vues et Voix, où je fais la lecture aussi, il m'arrive de le faire. Mm-hmm. Pas assez souvent à mon goût, malheureusement, mais c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus. Et je me rends compte à quel point on sous-estime le temps, le talent que ça prend, la manière de le faire pour rendre ça très, très intéressant. Mm-hmm. C'est fondamental, la lecture à haute voix. Et de plus en plus, je trouve qu'on revient à ça aussi, et pas seulement chez les non-voyants, mais chez tout le monde, en voiture, les livres audio, c'est quelque chose aussi qui est très pratique, qui est très, très prisé aussi.
Exactement. Alors donc, vous serez là avec grand plaisir pour nous accompagner, pour ouvrir un petit peu cette soirée du 25 septembre.
Mais je suis très curieuse.
Oui, oui, hein. Vous avez
Je suis jamais allée manger au noir.
Non, hein?
Non.
Eh bien, ce sera une première. Alors donc, Claudia La Rochelle, qui sera là en tant que porte-parole de Vues et Voix et marraine aussi de cette soirée. Et là, je me tourne vers Jacques Tremblay et Michel Corbeil. Michel Corbeil, vous êtes la grande directrice, la grande prêtresse de ce Festival international de la littérature.
Avec tout ce que ça peut vouloir dire, finalement. je dis toujours que je dirige un petit grand festival parce que c'est une petite équipe, mais j'ai la chance de pouvoir compter sur... un merveilleux conseil d'administration dont fait d'ailleurs partie Claudia La Rochelle, c'est assez amusant. Et puis surtout sur une petite équipe, mais d'abord et avant tout sur des artistes, des écrivains qui me font voyager.
Absolument.
Je dis souvent que le festival n'a pas de thématique parce que quand je commence à travailler sur la programmation, il n'y en a pas de thématique. Mais à chaque année, par une espèce de miracle, il y a un fil qui se dégage. Ce sont mes propres obsessions. Et cette année, c'est vraiment autour de la rencontre avec l'autre.
Ah oui.
Et je trouve que ce projet qui m'a été suggéré, lancé par Jacques Tremblay, rentre tout à fait dans cette thématique de cette année, parce que c'est aller à la rencontre de l'autre aussi, de découvrir comment les non-voyants ont accès à la littérature. Et je souhaite de tout cœur que pour cette soirée-là, il peut bien sûr avoir des non-voyants, mais je veux que les voyants soient présents pour découvrir aussi la façon dont les non-voyants apprivoisent la lecture. Et dans cet esprit-là, je trouvais ça vraiment magique. Mais je laisse Jacques expliquer comment il m'a convaincue.
Hein, Jacques? Alors, vous l'avez convaincu comment de ce projet?
Vous me mettez les mots dans la bouche. Parce que le but, c'était vraiment...
Si on ose dire au restaurant noir.
je fréquente depuis plusieurs années le Festival international. Je ne suis pas un festivalier continu et intensif, mais je suis un festivalier constant. Et je vois ce qui est proposé. Ce qui est proposé, la littérature est associée à de la musique, la littérature est associée à des arts graphiques. Et là, j'ai dit, et si on associait la littérature à la gastronomie, et si on y ajoutait la condition d'aveugle qui apprécie la littérature par les oreilles, on aurait quelque chose d'inédit ou d'inouï, pour jouer avec les mots. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai vérifié auprès du restaurant Au Noir, dont tous les serveurs sont des aveugles à hauteur de 90%. Là, autrement dit, ce sont des très peu voyants qui offrent le service et qui ont donc peu de possibilités d'emploi ailleurs que dans une institution ou un établissement comme celui-là. Et ils ont été très ouverts à l'idée de « oui, on va tenter l'expérience ». Et ça veut dire un défi logistique important. Donc, pour les festivaliers, ça veut dire ne pas renoncer à la littérature, ne pas renoncer à l'accompagnement musical parce qu'il y aura un environnement sonore, habillage sonore que l'on vous doit, Clotilde, qui assurera un peu le lien entre tout ça. On aura des lecteurs qui, dans le cadre de Vues et Voix, sont des lecteurs anonymes, mais qui, pour l'occasion, deviennent anonymes. Vous avez mentionné les Michel Keble, puis les Béatrice Picard et Clotilde de ce monde, qui sont des lecteurs exceptionnels et dont les...
Bon, en tout cas, qui sont des lecteurs bénévoles. Parce que c'est ça l'idée, qu'on fait partie de la gang. C'est ça le truc.
Et les festivaliers comprendront, je pense, ce que Michel suggérait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire goûter la littérature par ses seules oreilles.
Oui. Parce que c'est ce qui se démarque, parce que des soirées au restaurant Au Noir, il y en a entre guillemets pas mal maintenant, il y a énormément de gens qui utilisent ce moyen-là de promotion, mais là, c'est non seulement déguster ce que vous allez manger, mais c'est déguster aussi la littérature telle qu'elle vous sera lue et telle que les gens... qui n'ont que leurs oreilles
c'est
pour en profiter.
C'est du plaisir en double.
Exactement.
C'est du plaisir, le plaisir gustatif, mais le plaisir aussi auditif.
Et pour un tout petit prix, c'est tellement dommage peut-être de parler de sous dans un contexte aussi poétique, mais c'est parce qu'on a vraiment, vous avez voulu, Jacques, que ce soit vraiment très accessible. Et je trouve que c'est important de le dire.
C'est le prix du repas. C'est 50$, incluant taxes et services, et incluant la prestation littéraire comme telle, incluant l'environnement du fil, tout ça, plein d'allures. Et tantôt, Michel parlait de la thématique qui se tisse. Il y a une des thématiques qui se tisse, c'est le triangle des capitales, Paris, Port-au-Prince, Montréal.
Oui, c'est ça, c'est une des thématiques importantes cette année du festival. C'est une obsession que j'ai depuis longtemps, parce que c'est mes trois villes préférées, Paris, Montréal et Port-au-Prince. Et moi, je trouvais ça très touchant de voir que les textes qui vont être lus ce soir-là rejoignent d'une certaine façon cette thématique-là aussi, qui est encore là, qu'on parle de Paris-Montréal-Port-au-Prince, c'est la rencontre avec l'autre. Donc, le choix des textes était aussi autour beaucoup de Montréal.
Bien sûr.
Dans cette soirée-là. Et puis, mais Montréal, mais aussi, comme je pense à Dany Laferrière, qui va être présent d'une autre façon au festival, ou une Monique Proulx et tout. Donc, tout ça se tient très, très bien.
Oui, parce que pour Dany Laferrière, Paris, Port-au-Prince, Montréal...
Oui, on ne peut pas faire mieux.
On ne peut pas faire mieux. Hein?
Non, c'est impossible.
Vraiment, difficilement. Merci beaucoup à Claudia Larochelle qu'on doit libérer. Elle a un agenda de ministre, cette femme. Tiens, ça vous irait bien, ça, ministre de la Culture,
Anne
Sujour. Oui, je ferai
un ménage, mesdames et messieurs.
C'est pour ça qu'elle s'est achetée une nouvelle robe.
Et je ne suis pas corrompue, pas corruptible. Alors, voilà.
Alors, mais donc, merci à Claudia. Je vais garder avec moi Jacques Tremblay et Michel Corbeil. Et nous allons inviter d'ici quelques minutes quelques-uns des lecteurs qui vont participer à cette soirée exceptionnelle du 25 septembre. Et on va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur cette soirée, sur ce qui vous attend. Vous allez voir, vous allez être obligés de prendre le téléphone pour réserver. Alors, c'est le genre de musique qu'on pourra entendre tout au long de la soirée, qui viendront soit ponctuer, soit amener un des textes qui sera lu le 25 septembre prochain. Je demanderai à Jacques Tremblay de bien vouloir s'approcher à nouveau d'un micro. Alors, Jacques, donc vous, l'initiateur de cette soirée-là, c'est à vous aussi qu'on doit le thème de Montréal? C'est vous qui avez eu cette idée-là?
Ben, depuis le temps qu'on parle du 375e, quand on a conçu le projet, c'était en février dernier ou en janvier-février dernier, on n'en parlait pas trop. Là, maintenant, on commence à se faire rassasser, rabâcher les oreilles avec le 375e. Sauf que quand on regarde dans le détail, quand les participants ou les convives goûteront à nos textes, ils s'apercevront que ce n'est pas des textes encensoir, que ce n'est pas des textes de type promotionnel ou publicitaire,
mais c'est des textes de
gens qui ont marqué, qui ont vécu Montréal à travers les âges.
Oui.
À commencer par Jacques Cartier, qui est arrivé à Hochelaga.
Oui.
Ça tombe bien, il y a un film qui vient d'être fait là-dessus.
Oui.
Et je pense que la façon dont Jacques Cartier a décrit son arrivée à Montréal colle à une réalité là, qui n'est pas, mettons, idyllique, là, mais qui est très chouette. Et quand on passe à travers ces années-là, ben, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont succédés, il y a beaucoup de tendances littéraires qui se sont exprimées. Donc, si on part de Jacques Cartier, puis on se rend à Yves Beauchemin aujourd'hui, là, mettons, oui, c'est très d'actualité, il y a une vingtaine d'années avec son Matou, ben on traverse des auteurs comme Gabriel Leroy,
oui, hein, bien
par
sûr.
Exemple. Et à travers le temps, Jean Marcel, qui a écrit des coquineries surprenantes. et Monique Proulx, qui a pris la plume il y a deux ans pour faire Ce qu'il reste de moi et qui s'est mis dans la peau de Jeanne Mance.
Ah oui, oui.
Je vous jure.
Je l'avais reçue ici à l'émission et ça avait été vraiment passionnant. Passionnant, oui, absolument.
Alors, c'est un peu ce qui a inspiré les textes, le choix des textes.
Jacques Tremblay, merci beaucoup. On va peut-être commencer par le début, finalement, la première voix qu'on va entendre, parce que vous aurez compris qu'au fur et à mesure que ce souper va se dérouler à l'aveugle, eh bien, il y a des voix comme ça qui vont apparaître et que vous allez entendre et qui seront porteuses de tous ces textes et de tous ces auteurs dont vient de nous parler Jacques Tremblay. La première voix qu'on va entendre à cette soirée-là, en dehors du fait qu'on aura entendu certainement Claudia La Rochelle, notre marraine, et la voix de Jacques Tremblay ici présent, initiateur et animateur de cette soirée-là, la première voix en tant que lecteur qu'on va entendre, c'est celle de Michel Keb, un petit jeune qui débute aussi. Bonjour Michel.
Bonjour Clotilde. Quel plaisir.
Oui, hein, quel plaisir quand même, parce qu'on ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas. On a frotté nos derrières sur les mêmes fauteuils pendant quelques temps.
Oui.
Et Michel, vous avez eu la gentillesse d'accepter cette invitation-là. Je voudrais d'abord préciser, c'est vrai pour Michel comme pour tous les lecteurs qui sont là, c'est qu'ils sont d'abord et avant tout, avant d'être des voix et des animateurs, des lecteurs bénévole. Vous faites partie, Michel Keble, depuis quoi maintenant, un an ou
depuis
deux?
Un an, à peu près.
Un an,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Mais grâce à la retraite.
J'ai joint la famille, grâce à la retraite,
hein?
Effectivement.
C'est vrai, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la pêche? Non.
Non, ben, j'avais mon ami Gilles qui était déjà
ben,
là.
En plus, ben oui, Gilles Dupuis, ça va, Gilles?
Oui, ça va bien, merci.
Mais oui, alors vous. Ouais. Est-ce que c'est vous, Gilles, qui l'avait appelé et puis qui avait dit à Michel, dis-moi,
oui.
Dis donc. Ah, c'est vrai?
On s'est croisé.
Ouais.
Ah ouais?
Oui, mais... il m'a tenté deux fois au moins.
Jacques voulait beaucoup avoir Michel ici.
Ah oui, aussi, hein?
Je ne sais pas pourquoi, une voix pour une... Oui. Pas tout à fait ordinaire.
C'est une famille ici.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est joindre une famille, mais c'est toujours agréable.
Alors, Michel, Michel Keble, qu'est-ce qu'on vous a chargé de lire? Ben, quel est ce texte?
Vous avez proposé aux gens la première voix lectrice de la soirée. Oui. Moi, je vous propose le combo, c'est-à-dire le premier texte,
d'accord,
le début du premier texte, celui de Jacques Cartier. C'est un chapitre qui s'intitule « Comment le capitaine et les gentilshommes avec 25 hommes bien armés et en bon ordre allèrent dans la ville de Hochelaga et la situation du dit lieu ». Alors, ça commence comme ça. Le lendemain au plus matin, le dimanche 3 octobre 1535, le capitaine s'accoustra et fit mettre ses gens en ordre pour aller voir la ville et demeurant du dit peuple, et une montagne qui est jacente en leur dite ville, où allèrent avec le dit capitaine les gentilshommes et 20 mariniers, et laissa le parsu pour la garde des barques, et print 3 hommes de la dite ville de Hochelaga pour les mener et conduire au dit lieu. Et nous, étant en chemin, le trouvâmes aussi battu qu'il soit possible, et plus belle terre et meilleure qu'on saurait voir, toute pleine de chênes, aussi beau qu'il est en forêt de France, sous lesquelles était toute la terre couverte de glands. Et nous, ayant marché environ lieue et demie, trouvâmes sur le chemin l'un des principaux seigneurs de la dite ville, accompagné de plusieurs personnes, lequel nous fit signe qu'il se fallait reposer au dit lieu, près un feu qu'ils avaient fait au dit chemin. Ce que fîmes.
Et là, il faut quand même préciser, Jacques Tremblay, avancez-vous un petit peu, mais il y a eu un petit travail qui était fait sur ce texte-là, ou pas du tout?
Non, j'avoue que Michel a lu exactement les termes de Jacques Cartier, dans une hypothèse qu'on a développée, je ne sais pas si on va la conserver, mais le parsu, là, à un moment donné, qui apparaît dans le texte, mais c'est le reste de l'équipage, ou le reste des équipiers. Donc, ce n'est pas évident que c'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire peut-être... en suite, hein, ni plus ni moins.
Ensuite,
le supplément, oui.
Le supplément.
On regarde, c'est beau.
Mais c'est ça.
Mais c'est tellement... On ne perd pas du tout le sens, même si on perd le parfum.
Alors, Alors là, il faut se mettre dans le contexte. En ce moment, nous n'avons rien dans nos assiettes ni dans nos verres. D'ailleurs, je ne vous ai même pas offert à boire, honte à moi. Mais, c'est pas bien. Mais imaginez-vous déguster quelque chose d'absolument sublime qui vous reste dans les papilles. Et là, d'entendre tout d'un coup cette petite voix à l'aigu de Michel Keble qui vous arrive pour vous lire un extrait. Ça va être ça, tout le côté délicieux hein, de cette soirée du 25 septembre. Il m'est échu, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Un extrait, oh mon Dieu, j'aurais jamais osé la faire en direct, celle-là. un extrait du livre de Monique Proulx. Les fidèles auditeurs vont se souvenir que j'avais reçu à l'époque Monique Proulx l'an dernier pour qu'elle vienne nous parler de ce livre, « Ce qu'il reste de nous ». Un petit bonheur de bouquin sur la découverte de Montréal, sur Jeanne Mance. Quel personnage fantastique. On découvre une kyrielle de personnages comme on ne les connaît souvent que sur des noms de plaques de rue, par exemple. Alors, mais là, tout d'un coup, Monsieur de Maisonneuve prend tout son sens. Monsieur de Chaumédé aussi. Oh, quel personnage! Et je suis très, 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 très heureuse parce que Jacques m'a demandé si j'accepterais de lire un tout petit bout de ce livre-là, « Ce qu'il reste de nous ». Ben, j'ai choisi, évidemment, je ne vais pas vous lire dans l'intégralité l'extrait que je vais lire le 25, mais j'ai choisi parce que on se demande exactement de quoi était faite cette relation entre Jeanne Mance et Monsieur de Chaumédé. Il y a les mauvaises langues qui prétendent même peut-être que... Enfin bon, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on ne sait pas bien ce qui s'est passé entre deux-là. Alors voici. Dans le domaine de la moralité, il ne craint pas de se montrer intraitable. On parle de Monsieur de Chaumédé. Il interdit à Ville-Marie, sous peine d'amende, de bannissement ou de prison, l'alcool, le blasphème, les jeux de hasard, l'adultère, les inconduites avec les sauvagesses. Un certain sieur de la Barre l'apprend tôt, à ses dépens, qui se voit chassé de Nouvelle-France pour avoir engrossé une Canadienne. Et plus tard, le riche traiteur Jean Aubuchon est condamné à 600 livres d'amende et au bannissement perpétuel pour avoir séduit l'épouse du chirurgien Étienne Bouchard. Plus tard encore, Paul condamnera l'auteur d'un viol à la peine capitale qui se verra réduite par Québec en condamnation à la galère, qui se verra elle-même transmutée en poste de bourreau, faute de galère en Nouvelle-France. Elle est d'accord avec la moindre de ses décisions, Jeanne Mance. Et réciproquement, cette merveille de constater à quel point leur duo est harmonieux, qui ne s'est pourtant pas choisi. Voilà. Petite toux ici restant de rhume, mais que voulez-vous, nous ne sommes pas des ordinateurs, nous sommes faits de chair, de sang et de musculature et de toutes sortes de choses qui se mettent parfois à déconner quand on est en plein milieu d'une émission, mais ça fait rien, on y reste et ça va me permettre d'arriver jusqu'à Gilles Dupuis. Je vais vous laisser la parole, Gilles, pour que vous nous présentiez le texte dont vous allez lire un extrait à cette soirée du 25 septembre.
Eh bien, malgré les interdictions de Monsieur Chaumédé, il y a eu à Montréal, il semble-t-il, plusieurs coquineries, en fait. Certaines sont relevées dans un livre de Monsieur Marcel, qui m'a fait découvrir Jacques Tremblay, « Contes et légendes et récits de l'île de Montréal ». Alors, voici un avant-goût de la coquinerie à laquelle vous êtes conviés. Les murs de Jéricho. Dès les alentours de l'année 1686, soit à peine une génération d'hommes après la fondation de la bourgade par le sieur de Maisonneuve, il y avait à Ville-Marie suffisamment de respectueuses, sinon de scandaleuses, pour que ces bons messieurs de Saint-Sulpice, ouverts à tout, songeassent à fonder à leur tour une maison pour les contenir. Ils ne firent pas qu'y songer, ils l'érigèrent bel et bien, quelque part entre la première église Notre-Dame et les abords du port. On lui donna le nom de Jéricho. La singulière réalisation sulpicienne suffirait à nous enseigner, s'il en était besoin, que nos ancêtresses n'étaient pas toutes valeureuses comme le furent les filles du roi, ou que l'eussent-elles été, par ailleurs, la plus antique pratique du monde fût apparue aussi dans le nôtre, fût-il nouveau. Quoi qu'il en soit, on admettra que s'il existait une maison telle que Jéricho, c'est qu'elle devait avoir pour corollaire d'autres maisons un peu moins sanctifiantes.
Et on a vraiment, franchement, envie d'en savoir plus. La voix de Gilles Dupuis que vous venez d'entendre. Lui aussi, Gilles, on le disait, ancien retraité de la Grande Tour. Avant, je disais de notre voisine, mais depuis qu'on a déménagé, on s'est un petit peu éloigné de la tour de Radio-Canada. Merci beaucoup, Gilles.
Ben, je vous en prie, c'est un plaisir.
Et puis, je me tourne maintenant vers notre amie Béatrice Picard. Je dis notre amie parce que quand on est de Canalem et de Vues et Voix, Béatrice, c'est même plus une lectrice bénévole, c'est vraiment une amie. Ça fait combien de temps que vous faites ça maintenant, de la lecture?
Écoutez, vous disiez que vous vous êtes éloignée de la tour, mais vous vous êtes rapprochée de l'endroit où la magnétothèque a commencé, ici, sur Chérier.
Oui, absolument.
Et donc, je faisais partie du début. Après, je suis partie vivre dans le Nord, donc je ne pouvais plus venir plus souvent.
Oui, c'était moins facile.
Et j'ai repris il y a quelques années avec Vues et Voix, maintenant, qui aussi a de la musique et la radio et tout, là, maintenant.
Mais oui. Et vous allez participer aussi, vous allez prêter votre voix également à cette soirée du 25 septembre. Qu'est-ce que vous allez lire comme extrait, Béatrice Picard?
Je vais lire le premier roman urbain. Qui était également le premier roman de Gabriel Leroy, oui. Bonheur d'occasion, qui à l'époque a fait sensation et même petit scandale, parce qu'on parlait de choses, n'est-ce pas, qu'on taisait toujours, on n'en pensait pas moins. Alors voici un petit extrait de
D'accord.
Bonheur d'occasion.
D'accord.
Et soudain, Florentine évoqua la rue Sainte-Catherine, les vitrines des grands magasins, la foule élégante du samedi soir, les étalages des fleuristes, les restaurants avec leurs portes à tambour et leurs tables dressées presque sur le trottoir derrière les baies miroitantes, l'entrée lumineuse des théâtres, leurs allées qui s'enfoncent au-delà de la tour vitrée de la caissière, tout ce qu'elle désirait, admirait, enviait, flotta devant ses yeux. Ah, ce garçon ne devait pas s'embêter le samedi soir. Pour elle, ce n'était pas gai. Parfois, peu souvent, elle était sortie avec un jeune homme, mais il ne l'avait jamais emmenée qu'à un petit cinéma de quartier ou à quelque pauvre salle galeuse de banlieue. Et encore, pour un si mince divertissement, il avait cherché à se faire payer de baisers. Et ainsi, à se défendre constamment contre lui, elle n'avait même pas goûté le plaisir d'être au cinéma. Mais que cette ville l'appelait maintenant, à travers Jean Lévesque. À travers cet inconnu que les lumières lui paraissaient brillantes, la foule gaie, et le printemps même, plus très loin, à la veille de faire reverdir les pauvres arbres de Saint-Henri.
C'était la délicieuse voix de Béatrice Picard pour nous lire un extrait de Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy. Je vous invite à rester des nôtres. Dans deux minutes, on va vous donner toutes les informations au complet pour pouvoir réserver votre place. Il reste encore quelques places, mais profitez-en, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Alors restez là et ensuite, on va aussi parler du Festival international de la littérature avec Michel Corbeil, Sylvie Drapeau, entre autres. Et alors restez là. Parce que vous êtes essentiels, sinon on ferait quoi, nous? Hein? Alors? Des livres plein les oreilles. Et c'est le spécial Festival international de la littérature qu'on vous propose aujourd'hui à cette émission des livres plein les oreilles. Rebonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M. Clotilde Seille et ses invités en seconde partie. Il y a du monde à la messe, comme dirait l'autre. Ah, quoi que maintenant, on ne peut plus le dire, ça, depuis qu'il y a une émission qui s'appelle comme ça. On ne peut même plus le dire. Alors, je suis encore en compagnie de Michel Corbeil qui dirige de main de maître le Festival international de la littérature. Il y aura également en cette seconde partie deux comédiens. La comédienne d'abord Sylvie Drapeau, que vous connaissez bien, qui nous a déjà présenté ici Le Fleuve et qui revient nous présenter Le Ciel, qui va d'ailleurs présenter ça au cours d'un événement dans le cadre du fil. Il y aura aussi Benoît Drouin-Germain, comédien. Bonjour Benoît, et au sujet d'un événement autour de Salut Galarno. Et puis je reviens tout de suite, si vous me le permettez, avec l'ami Jacques Tremblay, parce que nous avons manqué d'un petit peu de temps à la fin de la première demi-heure. Et Jacques, comme les gens en ce moment trépignent d'impatience, ils ont tellement aimé ce qu'ils ont entendu en première demi-heure qu'ils disent « Ok, on réserve comment ? On fait comment ?»
Comme quand on veut réserver au resto, là, sauf qu'au lieu de téléphoner au resto, on téléphone à Vues et Voix, qui coordonne les inscriptions, qui recense les menus, parce que pour simplifier la logistique le soir de l'événement, il faudrait prévoir qu'est-ce qui est produit comme bouffe. Et il y a un choix qui est offert à chacun. Donc, ça leur est offert au téléphone.
D'accord. Voilà.
Et on téléphone à Vues et Voix au 514-282-1999, poste 201.
Oui.
Et là, pour $50. On a un repas trois couverts, de la gastronomie, c'est pas du fast-food.
Non.
Et ça inclut les taxes, le service et la prestation littéraire.
Alors vraiment, gâtez-vous mes amis, 282-1999 au poste 201, c'est bien ça.
Oui, et ceux qui voudraient se présenter à Vues et Voix pour voir à quoi ça ressemble, cette bibite-là, peuvent se rendre au 1001 rue Sherbrooke-Est, c'est tout près du parc La Fontaine, tout près du métro Sherbrooke, et puis ils pourront faire leur choix et leur réservation sur place. Puis en même temps, on pourra les saluer.
Au bureau 510.
Au bureau 510.
Merci beaucoup Jacques Tremblay, et puis merci d'être venu nous voir pour nous parler de cette magnifique soirée qui, rappelons-le, aura lieu le lundi 25 septembre. À partir de quelle heure il faut se présenter, Jacques? 7 heures?
Ce soir-là, dès 6 heures, les gens pourront venir prendre l'apéro, choisir leur vin. Et vers 7h, 7h15, on entre en salle.
D'accord. Et la lecture commencera?
À partir de 7h30, grosso modo, là, ce sera difficile d'entrer en salle, étant donné que tout est dans le noir.
Oui.
Et qu'il n'y a aucune concession.
Oui.
Alors, dans le programme du film, on parle de 18h30. C'est l'heure moyen d'accueil des invités. Mais 7 heures, on commence à entrer, on commence à jaser.
Merci Jacques Tremblay. Michel Corbeil.
Oui, bonjour.
Le fil, rebonjour. Hein, le Festival international de la littérature. C'est votre bébé, ça.
Oui, c'est mon bébé. C'est pas mal mon occupation à temps plein.
Oui.
Ça fait 23 ans maintenant. Que le festival existe. Au départ, il a été créé par des écrivains, par l'UNEC.
Ouais.
Et il est devenu autonome il y a 13 ans. Donc, je l'ai complètement adopté. Mais j'y suis depuis les tout débuts, parce que quand les écrivains ont eu l'idée de faire ce festival, puis après ça, il fallait que quelqu'un l'organise. Alors, ce qui fait que j'étais là, dès le départ.
Et l'idée, au témoin d'un doute, mais c'était vraiment de rendre la lecture sonore. Hein. C'est-à-dire, ça a toujours été un festival qui a fait une place énorme à la lecture à haute voix.
Oui, parce que c'est la littérature et la rencontre des autres formes d'art.
Oui.
Donc, à la fois théâtre, art visuel, même le design, la danse, toutes les autres formes d'art. Mais toujours dans un esprit très, très clair, c'est de ramener les gens vers le livre, vers la lecture.
Bien sûr.
Comme je dis toujours, ce qui distingue spectacle littéraire d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle de danse, même s'il y a des artistes des autres disciplines, c'est toute la place que prend le livre, la lecture, le plaisir de lire. Et cette année, c'est ça, cette année, on est beaucoup, beaucoup, comme je disais en début d'émission, il n'y a jamais de thématique, mais il y a mes propres obsessions, puisque c'est moi qui fais la programmation de ce festival. Et cette année, j'avais très envie de la rencontre avec l'autre.
Oui.
Et votre événement, l'événement de Vues et Voix, s'intègre tout à fait dans cette préoccupation que j'ai et l'envie que les gens de différentes générations se rencontrent aussi. Quand on parle de rencontre avec l'autre, c'est dans les textes qui sont choisis. Je pense aux très, très beaux textes de Sylvie Drapeau qui, moi, m'ont touché énormément parce que c'est vraiment aussi moi et l'autre, moi et mon frère, moi et ma mère.
Ouais.
Et ça, c'est... Comme je vous dis, quand j'ai contacté Sylvie pour lui proposer cette lecture à haute voix, Je ne savais pas que c'était ça qui serait la trame du festival. Mais finalement, ça s'intègre totalement. Ça doit être, comme je vous dis, mes obsessions. Ou les rencontres entre générations. On parle de Salut Galarno.
Oui.
Ben, Salut Galarno, je vous ferai remarquer que François Galarno, héros de Jacques Godbout, va avoir 50 ans dans quelques jours. Le 16 septembre, premier article paru sur Salut Galarno.
Oui.
Donc, François Galarno va avoir 50 ans le 16 septembre.
Dans deux
Et
jours.
Je trouve ça extraordinaire d'avoir un jeune acteur de 35 ans qui va incarner
Benoît
Drouin-Germain.
Bonjour Benoît, on va revenir vers vous un petit peu plus tard et vers Sylvie Drapeau que je salue aussi évidemment. Quand on va faire un espèce de gros plan hein, sur vos événements respectifs, mais avant, puisque je vous ai sous la main, Michel Corbeil, j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon ensemble de ces grands moments-là. Je pense à l'avenue de Delphine Neuvigan, ça c'est quand même fantastique.
Oui.
Et ce duo qu'elle va former.
Oui, tout à fait.
Avec
là,
la grande Sophie.
Ça peut pas être plus dans mathématiques. Ça s'appelle l'une et l'autre.
L'une et l'autre.
Donc, Delphine Neuvigan qui lit certains de ses textes avec la grande Sophie, qui est plutôt la chanteuse. Mais encore là, ce matin, je travaillais sur le programme La Soirée et c'est un spectacle que j'ai vu. Et il arrive que Delphine chante, il arrive que la grande Sophie lise. Et c'est vraiment leurs deux univers. Ces deux femmes-là se sont rencontrées et elles se rejoignent toutes les deux. Elles ont les mêmes obsessions. Donc, il est question d'enfance, d'adolescence, de rupture amoureuse, de présent, d'amitié avec d'autres femmes. Donc, c'est le premier spectacle, c'est le 22 septembre, mais c'est vraiment l'ouverture du festival.
Et ça se passe au Théâtre Outremont.
Au Théâtre Outremont.
C'est bien ça. Rappelons-le, si des fois, là, il y a peut-être des gens qui disent « Delphine Neuvigan, voyons, qu'est-ce qu'elle a écrit, Delphine Neuvigan ?» Mais oui, je vous en parle abondamment. C'est une de mes petites préférées. Il y a ce livre merveilleux, « Rien ne s'oppose à la nuit », que j'ai cherché chez moi, je le trouve plus. À tous les coups, je l'ai donné, parce que dans ces cas-là, moi, c'est comme ça. « Hein, t'as pas lu ça ? Pouf, pars avec. » Et après, tu fais « À qui j'ai prêté ça ?» Alors, et voilà, ça s'est envolé. Et puis, il y a aussi, d'après une histoire vraie, notamment, ce sont des extraits, entre autres, de ces livres-là qu'elle va nous proposer.
Oui, de la plupart de ces livres, d'ailleurs. Elle a choisi des extraits à partir des livres qu'on connaît un peu moins de Delphine Neuvigan, les tout premiers, qui parlent d'anorexie, qui parlent donc de son enfance.
Oui, beaucoup sur l'enfance.
Voilà, alors, il y a vraiment un parcours qu'elles font, les deux filles.
D'accord. Alors, ça, c'est à ne pas manquer. C'est un premier incontournable, mais il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres. Je voyais tantôt sur votre table Nirlit.
Oui.
Nirlit de Juliana Léveillé Trudel, qui est un livre absolument magnifique et qui est vraiment, là encore, pour moi, qui est un livre qui parle de la culture inuite, mais de façon absolument merveilleuse. On parle beaucoup dans le moment de l'appropriation culturelle, du danger de l'appropriation culturelle par rapport aux cultures amérindiennes, autochtones. Mais elle le mentionne à plusieurs reprises dans son livre. Elle le fait avec énormément de tendresse parce qu'elle a travaillé beaucoup dans le Grand Nord. Et ce spectacle, elle est aussi comédienne, Juliana. Donc, elle va être accompagnée avec des chanteuses de gorge inuit. Donc, on est vraiment dans un rapport à la fois le texte, mais aussi d'entendre ces voix-là qui sont très particulières.
Écoutez, je me souviens, parce qu'elle est venue aussi faire l'émission et j'ai été immensément bouleversée par ce livre-là, Nirlit, qui veut dire le vol des oies. Hein, parce que, et c'est important de le repréciser, parce que vu qu'elle allait passer quelques mois par année, donc elle y allait et elle en revenait. Donc c'est une forme de migration, et c'est pour ça que là-bas, on l'appelait Nirlit. Et je lui avais dit à l'époque, je me souviens bien, tout ce qu'il y a de plus beau et de plus laid, mais lorsque le laid parfois devient beau et le beau devient laid, et c'est tout ça qu'on peut lire dans ce livre-là, et ça va être une soirée fantastique aussi. Rappelez-nous la date et le lieu
C'est à la Grande Bibliothèque et c'est le mercredi 27 septembre.
Mercredi 27 septembre. Et puis,
j'ai envie de vous dire, ce que vous venez de dire, ce qu'il y a de beau et de laid, un des premiers spectacles finalement du festival, c'est Là d'où je viens, Darling, et qui est autour des écrits de Svetlana Alexievitch et de Madeleine Gagnon et de Tania Langlais. Mais il est question là, justement, de guerre, d'exil, de toutes choses horribles qu'on connaît présentement d'ailleurs à travers le monde, mais en même temps d'humanité. Donc il y a ce côté-là, à la fois ce qu'il y a de plus laid, mais de ce qu'il y a de plus beau. Il y a des choses extraordinaires. Je vous conseille fortement de lire Svetlana Alexievitch. Que moi, j'ai passé tout l'été à lire ces textes. C'est absolument extraordinaire.
J'entendais une bénévole ici, il y a quelques jours, dans notre petite cafétéria, là, qui disait « Ah, ça, je ne raterai pas ça, parce que j'ai lu tous ses livres. Ah, » et elle disait « Ça, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. »
Je vous dis juste un exemple, d'accord, oui. de Svetlana. Dans un de ses livres, oui. elle raconte ces femmes qui allaient à la guerre, pendant la Grande Guerre, oui. tout ça, ces femmes russes de l'URSS qui participaient. Et elle est infirmière, elle doit aller ramasser des corps. Des gens qui sont blessés. Et là, il y a un moment, elle en ramasse deux en même temps. Et là, plus ça va, elle se rend compte que finalement, il y a un Russe et un Allemand. Mmh. Et là, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse l'Allemand là? Puis, bon. Et là, finalement, elle se dit, non, je suis là comme infirmière, donc je tire les deux. Et là, soudainement, il y a le Russe, je crois, qui se réveille un peu et qui se rend compte qu'il est avec l'Allemand. Donc, il veut le tuer.
Ils veulent trucider, ils veulent finir.
Elle leur tape sur la tête à tous les deux en leur disant « Vous restez tranquille, le temps que je vous soigne, et puis après ça, vous recommencerez à vous battre. » Donc, c'est ça l'humanité aussi.
C'est vrai aussi. Et le fil, c'est ça aussi, parce que ça permet toutes ces rencontres-là. Et c'est vraiment... Écoutez, là, moi, j'ai tout le programme sous les yeux, alors j'ai envie de vous dire « Et ça, et ça. » Bon, Régent du Charme.
Mais oui, Régent du Charme, dont on a appris la mort.
Mais oui, il y a quoi, ça va faire
juste
ça
après
fait
le
trois
dévoilement,
semaines maintenant,
je dévoilais la programmation du festival.
Incroyable.
Régent du Charme qui a une place importante, moi, dans ma vie aussi, parce que j'étais attachée de presse chez Gallimard. Donc, j'étais l'attachée de presse aussi de Régent du Charme pour Dévader. Et c'est, bon, naturellement, une œuvre importante. À chaque
Bien
édition
sûr.
Du festival, on revient avec Régent du Charme. La seule chose qui me rend triste, je veux dire, il y a ces événements, tant mieux. Mais l'année passée, on a fait La Vallée des Avalées avec Sophie Cadieu, une scénographie de Charles Binamé, c'était magnifique. Mais qu'on en ait parlé autant après sa mort.
Oui.
Pour moi, c'est un des auteurs les plus importants. Et je trouve ça dommage, finalement, qu'on attende toujours la mort de quelqu'un pour en parler autant. Ça me dérange un peu.
Oui, surtout qu'on n'en a pas dit que des propos élogieux. On a parfois entendu des choses, franchement.
Il y a des choses. J'ai mis d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur la page Facebook du festival.
Oui.
Il y a Dominique Horry, qui était la première, finalement, éditrice de Régent du Charme, qui raconte comment ça s'est passé quand elle a publié La Vallée des Avalées. Et c'est absolument génial pour ça.
Ah, oui.
Donc, oui, il y a un événement Régent du Charme, organisé par les éditions du Passage, avec exposition du Lactume, qui est une œuvre inédite de Régent du Charme.
Exactement.
Dessins et légendes. Il était d'accord pour le publier, mais il est mort avant qu'elle ait eu, finalement...
Et ça se voit et ça s'écoute.
C'est au Salon B, à l'espace culturel. Le Salon B, c'est juste à côté du Salon funéraire, sur Saint-Laurent, près
d'accord.
de Rachel.
Oui.
Donc, l'exposition est là. Et il y a déjà deux représentations de complètes. Il y a une supplémentaire, parce que c'est un tout petit lieu où il y aura des lectures, une lecture par Marquita Bois dans une mise en scène de Martin Fauché.
Et puis, il y a des noms, malheureusement, là, je vais manquer de temps. Allez, on va enchaîner ça, mais la place de Marie Huguet dans le paysage.
Oui, il y a Marie Huguet. Il y a aussi les Paris, Montréal, Haïti. Par-au-Presse, on a parlé un
Daniela
peu
tantôt. Ferrière,
Daniela Ferrière, là-dedans,
bien sûr.
Écoutez, il y a un site très, très complet.
Oui.
Je pense que les gens peuvent visiter. Pour moi, ce qui est très important, je le répète, c'est... ce que j'offre à chaque année, c'est un peu ma bibliothèque de l'année.
Oui.
C'est mes coups de cœur et c'est comme si j'étais une libraire et que je disais, cette année, ça serait bien que vous lisiez ça.
Oui.
Et je veux revenir avec ce que disait Jacques tantôt par rapport au 375e de Montréal, puis qu'on a beaucoup entendu parler de Montréal. Je veux juste vous dire, cher Jacques, qu'on n'a pas beaucoup parlé de littérature pendant toutes ces festivités-là. Donc, on peut bien parler d'œuvres littéraires autour de Montréal, on ne l'a pas fait.
Merci beaucoup, Michel Corbeil. Merci d'avoir participé à cette émission-là. Vous restez là parce que dans quelques minutes, je vais me tourner vers Sylvie Drapeau. Juste avant, une chanson qui, pour moi, est indissociable de votre œuvre, Sylvie Drapeau, en tout cas du premier de cette trilogie. On retrouve, c'est peut-être pas très original, mais qui d'autre mieux que Sylvain Lelièvre a chanté Le fleuve.
Ça passe comme un rêve entre nos rives grises. Ça charrie comme un goût d'aller chercher plus loin. C'est comme un peu du large écarté dans nos rues, du large qu'on appelle mais qu'on ne prend jamais, le fleuve, le fleuve. Des fois, quand j'ai le cœur écœuré d'être en ville, je viens le voir passer, les pieds vissés à terre, mais les yeux envolés vers l'est, plus loin que l'île, où l'horizon bascule et les rives se perdent. Le fleuve, le fleuve.
Par beau temps, sur le fleuve, il y a comme des diamants qui flottent, qui pétillent et qui rient. Lorsqu'on remonte, lorsqu'on revient de ses profondeurs, à un moment, je suppose, toute cette lumière vous explose au visage. Il y a toujours eu le fleuve. Il était là, en bas de la colline sur laquelle était juchée notre maison. On pouvait le voir au loin de la fenêtre de la salle à manger. Une forêt noire nous séparait de lui. Immuablement présent dans le paysage de l'enfance, il faudra pourtant un jour le longer pour quitter la côte nord et atteindre le sud-ouest et ses grandes villes qui te demeureront à jamais inconnues, mon frère. Le fleuve nous deviendra alors presque étranger, car trop loin du regard. C'est que, tu vois, la vie d'adulte sera devenue pour nous, la meute, une succession d'allers-retours entre son embouchure large et sauvage et son rétrécissement civilisé. Même après que la meute a été disséminée, l'océan m'aura, comme ça, toujours rappelé vers l'enfance, « Papa, maman, la meute et toi, notre frère. »
Et la voix de Sylvie Drapeau qui vient de nous lire un extrait.
Le début.
Le tout début du fleuve. Sylvie Drapeau, merci. Lorsque j'avais lu ce livre, j'avais constamment derrière, en filigrane, j'avais constamment les mesures, la musique, la voix et les mots de Sylvain Lelièvre.
Oh, c'est si beau.
Qui rendait hommage également
mais
au
oui,
fleuve.
Mais oui.
Je vous demandais de vous approcher un petit peu pour qu'on vous entende bien.
Ça m'a touchée de l'entendre.
C'est vrai, hein, ça vous a...
Oui, parce j'ai que... changé d'extrait, du coup, parce que c'était trop... fallait brancher ça.
Sylvie Drapeau, je vous avais dit, lorsque je vous ai reçue pour ce livre-là, je vous avais dit, ça me semble tellement beau que je voudrais avoir assez de mémoire pour l'apprendre par cœur. Et du coup, c'est un livre, j'en ai offert beaucoup de livres dans ma vie, mais je dois dire que le vôtre est celui que j'ai peut-être le plus offert. Et non, mais vraiment, c'est pas de la flagornerie, c'est parce qu'en plus, vous parliez, Michel Corbeil, de cette rencontre entre l'un et l'autre, mais là aussi, c'est le fleuve et nous, hein. Parce qu'au Québec, c'est indissociable, on ne peut pas séparer.
C'est nous, le fleuve.
C'est toujours ce que je dis aux personnes étrangères qui arrivent. Il va falloir que vous vous familiarisiez avec le fleuve, c'est un personnage.
Oui.
Hein, c'est vraiment ça. Sylvie, il va y avoir un événement de lecture, comme vous venez de le faire, autour de votre premier et du deuxième.
Le fleuve et le ciel. Je vais lire les deux romans en entier, avec une pause entre les deux.
En entier.
Oui, je vais tout lire le fleuve, pause, et je vais tout lire le ciel.
Dans la même soirée.
Oui, c'est un après-midi.
C'est un après-midi.
Un après-midi.
À 14 heures.
À 14 heures, et ça va se passer où?
Au Petit Outremont.
Au Petit Outremont. Quel bonheur de moment, mais mettez ça tout de suite à l'agenda. Répétez-moi cette date, c'est quand vous me dites ça?
C'est le samedi, le samedi 23. Je connais mon programme par cœur. Samedi 23 septembre, à 14 heures, au Théâtre Outremont.
Pour écouter Sylvie Drapeau dans ses mots à elle. Alors, pour les gens qui, par hasard, ne connaîtraient pas le thème de ce livre, Le Fleuve, et du suivant, Le
et
Ciel.
Et de tous les autres.
Et de tous les autres à venir.
C'est une tétralogie.
Il va y en avoir quatre. Voyez-vous, là, j'ai dit trois tantôt, mais tout augmente. Non, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était une trilogie.
C'est une adresse à mes morts, aux morts. Alors, le premier, c'est mon frère qui s'est noyé. Le second, c'est maman qui est morte. Le ciel, l'extrait que je vais vous faire. Ensuite, deux autres morts à venir.
À venir.
C'est une adresse, un poème d'amour à mes morts.
Oui, et c'est plein de vie. Je voudrais le préciser parce que c'est vraiment, c'est la vie
mais
dans
la
toute
vie
sa splendeur,
au
rythme du courant du fleuve.
Mais c'est que cette adresse aux morts, elle est remplie de vie parce que moi, je suis toujours vivante et je vibre à la vie. Alors, c'est ce dont je témoigne.
Oui, c'est ça.
Cette vitalité,
Ça me fait penser à, je ne sais pas pourquoi, j'ouvre une parenthèse, mais ça ne fait rien. au Requiem allemand de Brahms. Vous savez que le Requiem allemand de Brahms n'a pas été écrit pour les morts. En principe, le Requiem, c'est une messe pour les morts. Mais là, ça a été écrit pour ceux qui restent.
Mais c'est ça. C'est parce que lorsqu'on écrit, lorsqu'on parle aux morts, il y a derrière ça, il y a une envie de vivre incroyable.
Infini, oui.
Infini.
Sylvie Drapeau, est-ce que vous nous faites la joie d'un petit extrait de Le ciel?
Le ciel, ça, c'est une adresse à la mer. Nous sommes encore petits, nous, ta meute de loups, et te voilà qui rentre de chez le coiffeur avec quelque chose comme un immense nid de guêpe blond sur la tête, la mode du moment, comme un bonnet d'or. Même les brunes sont blondes. Toutes les femmes portent cette ruche dorée recouverte de lac, des cheveux qui ne bougent plus. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est ça maintenant une tête de femme. Encore d'autres dictats. Nous n'avions pas assez de ceux de l'Église. Il nous en fallait plus encore. Vous voyez, la narratrice, elle a 20 ans maintenant.
Ah oui.
C'est pas la même histoire. À ton retour, tu décides, pendant que tu y es, d'aller arracher les mauvaises herbes dans la rocaille. À genoux, malgré ta jolie robe à fleurs vibrantes et ta mise en plis, tu arraches patiemment tout ce qui pousse en dehors des fleurs, tout ce qui n'est pas une fleur. Tu es toi-même jardin de fleurs, prenant soin du jardin de fleurs. Élégante jusque dans le plus humble des labeurs, tu ne te rends pas compte de ce qui grimpe sur ta robe à fleurs, sur ta nuque, puis jusqu'à l'intérieur de cette sculpture moderne qu'est ta coiffure. Puis tu le sens, un très gros scarabée a pénétré dans le nid d'or pour ne plus en sortir. Tu hurles, hurles, hurles en courant, « Aidez-moi !» Nous te suivons en riant, haletant. « Quoi, qu'est-ce qui se passe, maman ? Il y a une bébite, une grosse bébite emprisonnée dans mes cheveux. Nous rions comme des fous. Arrête-toi, maman, on va t'aider, on va la trouver. » Tu ralentis ta course, te mets à genoux sur le gazon en gémissant. « Trouvez-la pour l'amour, trouvez-la. » Jubilant, nous partons à la chasse aux monstres. Il faut faire des trous dans le nid d'or. Tu hurles, nous rions cruels. Nous soulevons des mèches qu'on dirait métallisées. Nous perçons le casque d'or. Tu as l'air maintenant d'un ovni, d'une malade. Nous rions. Les ailes de l'insecte font un bruit d'enfer contre ton crâne. Nous détruisons les derniers murs de sa prison, puis il s'envole, le monstre. Tu rentres dans la maison très en colère, humilié, avec ce champ de blé sur la tête, ton corps plié de honte sous le poids de la peur que tu as toujours eue des voisins. Tout à coup, ils nous auraient vus, nous, les passionnés, les exaltés, les expressifs, à croire qu'ils n'ont pas de vie, à croire qu'ils ne rencontrent jamais aucun monstre. Nous retournons à nos jeux piteux. Nous t'avons fait de la peine avec nos rires en cascade.
Extrait de Le ciel, tel que vous pourrez l'entendre dans son intégralité par Sylvie Drapeau, auteure, comédienne évidemment, mais auteure aussi. Ne marquez pas l'auteure qu'elle est. Si elle n'était pas là, si vous saviez tout le bien que je dirais d'elle. Michel Corbeil, rappelez-nous la journée, l'après-midi.
Alors, c'est le samedi 23 septembre à 14h au Théâtre Outremont, Petit Outremont.
Si je vous dis que je n'ai jamais lu Salut Galarneau, est-ce que je devrais me cacher en dessous de la table ?
Pas du tout, au contraire.
C'est vrai ?
Au contraire, parce que je me dis, moi j'ai beaucoup aimé Salut Galarneau et je fais partie d'une génération où je n'étais pas obligée de le lire à l'école. Donc j'ai adoré ce livre et si vous ne l'avez pas lu, c'est parfait parce qu'on va vous donner envie de le lire.
Alors, avec justement l'un des deux comédiens qui sera là pour ça, qui va en lire un quelques extraits, Benoît Drouin-Germain, bonjour.
Bonjour.
Alors, Benoît Drouin-Germain, vous êtes tout jeune, vous?
Ben, tout jeune,
oui.
Oui, bon, oui, ça dépend du point
jeune,
de vue,
mais
oui.
Enfin bon, je pourrais être votre grand-mère. Alors, vous avez... Non, mais vous l'avez lu. Vous l'aviez déjà lu, Salut Galarneau?
Non, j'avais pas lu Salut Galarneau. C'est Alexis Martin qui m'a approché pour le lire, parce que c'est lui qui va faire la mise en scène là, de notre mise en lecture. Donc ça m'était complètement inconnu. Je l'ai lu trois fois depuis.
Oui. Hein?
Oui, oui. Puis avec grand plaisir, d'ailleurs.
C'est vrai?
Oui.
Bon, alors, il va peut-être falloir que je m'y mette. Pierre Curzi sera sur scène avec vous. Malheureusement, M. Curzi ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Mais nous vous avons, vous, pour nous présenter un petit extrait. Peut-être j'aimerais ça.
Oui, avec plaisir.
Voilà, je vous laisse aller.
Il y a un accident près du pont. C'est trois hot dogs. Ouais, all the rest. Il y a souvent des accrochages le vendredi soir. Tu saurais pas où je peux acheter un chat? Et il y en a plein l'île, t'as qu'à te pencher. Non, j'en voudrais un beau, un siamois. Non, je sais pas, non. Bon, ben, OK, bonsoir, là. Bonsoir. Hey, tiens, t'as de la visite? Quoi? les cops de Sainte-Anne qui s'amènent, les baveux avec la cerise allumée. C'est la provinciale, c'est pas la police du village. Ça se voit à leur façon de freiner que c'est la provinciale. D'ouvrir les deux portières, de se tenir debout, de parcourir l'horizon en ajustant leur ceinture, en remontant leur culotte avant de faire un premier pas. Salut François. Bonsoir Alfred, qu'est-ce que je peux vous servir? Rien pour tout de suite, rien. Est-ce que tu pourrais fermer ton stand puis venir au poste? Pourquoi? Un hit and run. Maryse, c'est ça? Elle venait de te rejoindre. Je l'attendais pas. Oui, peut-être. C'est grave? Non. Non, je pense pas, non. Attends, je ferme tout, je prends mes cahiers, j'embarque avec toi. Dire qu'on se parlait plus, c'est ce jour-là qu'elle choisit pour m'attendrir. Je déteste avoir à me presser comme ça, tout laisser sans rien nettoyer. Demain matin, il va y avoir partout des flaques de graisse figées. Mais c'est inutile de tenter de discuter avec la police, avec Alfred surtout, qui est venu au monde en uniforme pour plaire à son père. Ils m'installent entre eux sur le siège avant, leurs bras autour de mes épaules comme pour me consoler. Je leur demande absolument rien pourtant. Je m'inquiéterais pas pour Maryse à ta place. Si ça avait été grave, il aurait téléphoné. Elle doit être au premier soin, tout simplement, c'est pour ça. Non, non, je m'inquiète pas, là. C'est une bonne fille. Ah ouais, des jours, je l'aime, puis sans elle, je serais nul, rien, fini. D'autres jours, je la décapiterais avec une lame de rasoir. C'est à moi que tu dis ça. Ouais, ouais, si je le dis à un policier, c'est parce que je le ferai pas.
Benoît Drouin-Germain, bon. Merci beaucoup. On en prendrait évidemment beaucoup plus. Et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir en prendre beaucoup plus.
Tout à fait.
Michel Corbeil.
C'est au Théâtre Outremont le jeudi 28 septembre.
Le jeudi 28 septembre au Théâtre Outremont. Merci à vous toutes et vous tous. Michel Corbeil qui présidait au fil. On va rappeler que c'est à partir du 22 septembre.
Au 1er octobre.
Au 1er octobre. Merci Jacques Tremblay d'avoir initié la soirée au noir, la dégustation littéraire au noir du 25 septembre prochain. Merci beaucoup, Benoît Drouin-Germain, de participer à cette belle aventure.
Ça fait plaisir.
Et puis, merci à Sylvie Drapeau
merci
aussi d'avoir été là. Et bel après-midi de lecture le 23 avec Sylvie. C'était Clotilde Seille qui vous remercie infiniment à vous toutes et vous tous d'avoir écouté, pris part à cette émission de l'autre côté des ondes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission Des livres pleins les oreilles. Merci, salut.